Bonsoir Marie.
Bonsoir Arnaud. Nous sommes ce soir avec Jean-Miguel Pire. Vous êtes historien, sociologue et chercheur à l'EPHE et vous vous êtes penché sur une très belle notion, pourtant un peu oubliée aujourd'hui, l'osium. Alors, l'osium désigne un temps long, affranchi des tâches vitales, où l'homme accède au désintéressement et se livre librement à la vie de l'esprit. Le problème, c'est que ce que l'on ne peut pas nommer n'existe pas. Et comme il n'y a pas de traduction satisfaisante, vous employez l'expression « loisir studieux », mais la notion de loisir est ressentie de façon très négative aujourd'hui, eh bien, on en a oublié l'enjeu et l'importance. Cette notion d'osium résonne de façon particulière dans ces temps répétés de confinement. Alors, avons-nous, selon vous, Jean-Miguel Pire, tous le désir et les conditions nécessaires pour prendre ce temps de réflexion désintéressée?
Alors, je vais répondre à cette question, mais avant, il me semble que ce serait utile de faire un petit mot de définition du terme, parce qu'il est assez technique et effectivement, il peut égarer. Donc, pour éviter tout malentendu, je pense que c'est bien de dire qu'en fait, c'est une forme de loisir qui a été inventée en fait par les Grecs, qui s'appelle la scolée, et c'est les Romains qui vont le populariser avec le terme osium. Alors, le loisir fécond ou studieux désigne concrètement le temps dont on peut disposer pour soi-même et que l'on décide de consacrer à s'améliorer, c'est-à-dire à progresser pour accéder à une plus grande cohérence, à une plus grande compréhension du monde, en fait, pour donner un sens à l'existence. C'est le temps dans lequel on peut laisser libre cours à sa curiosité, au seul plaisir de connaître, de comprendre. Et la première caractéristique de l'osium est qu'il concerne d'abord le temps accordé à la vie de la conscience, donc c'est une activité de penser, d'imaginer, de rêver, de concevoir. Et sa deuxième caractéristique, elle est essentielle, c'est l'absence de contraintes. Cette activité doit être menée sans la limite des intérêts, des croyances ou des préjugés. L'osium est fondamentalement désintéressé. Il est fécond, mais pas utile. C'est-à-dire qu'il n'est pas réductible à une stratégie préétablie, limitée, une sorte d'utilité matérielle qui lui serait extérieure. Son propre accomplissement est déjà un but en soi. C'est-à-dire que la satisfaction de la curiosité est suffisante dans l'osium. Et donc, le désir de s'améliorer, de donner sens à l'existence, ne peuvent être réductibles à un but ou à une utilité triviale, car ils relèvent d'une vocation qui est inscrite au cœur de tout être humain. Et pour cette raison, on peut affirmer que l'osium possède une dimension existentielle. Il désigne au fond les conditions idéales pour déployer le meilleur de nos facultés, pour édifier le fort intérieur, le libre arbitre, le jugement. Donc ce n'est pas un hasard si les Grecs l'inventent en même temps que la philosophie et la démocratie, puisqu'au fond, l'accès à cette forme de loisir est pour eux inséparable de la quête de sagesse et aussi de l'organisation politique, la démocratie, qui est la plus respectueuse de cette pensée libre. Alors vous me demandiez, est-ce que on est égaux dans l'accès à ce temps de loisir fécond? Je dirais qu'il y a deux types de conditions à remplir pour pouvoir s'adonner à l'osium. D'abord, les conditions matérielles. C'est un point important pour les Grecs et les Romains. L'accès aux loisirs féconds n'est possible que dans la mesure où les besoins essentiels ou les tâches vitales sont accomplies. Si elles sont indispensables, ces conditions matérielles ne suffisent cependant pas. Il faut également qu'il y ait des conditions mentales. Les conditions mentales, c'est le désir et la disponibilité personnelle qu'on peut avoir. Et en fait, ça renvoie à l'effort qu'il faut accomplir pour atteindre cette fécondité qui est au principe de l'osium. Et au fond, le terme de loisir nous égare un peu parce qu'il nous renvoie au plaisir, alors que les Grecs et les Romains l'associent l'osium à une ascèse, c'est-à-dire une quête exigeante qui nécessite une discipline, un examen de soi, une tempérance des passions, donc quelque chose qui est assez contraignant et dans lequel on ne peut pas se livrer sans un engagement personnel très fort.
Il y a un point de tension que vous évoquez dans votre ouvrage, c'est que le contraire de l'osium, étymologiquement, c'est le négoce. Alors, est-ce à dire que l'utilitarisme dominant aujourd'hui a réduit, voire a dénigré ce temps de loisir au point de nous le faire considérer comme futile, là où vous venez de le dire, les Grecs, eux, le voyaient comme essentiel. Et pas seulement essentiel à l'individu, mais bien au collectif.
Alors ça, c'est une question majeure, évidemment, qui est un des points centraux de mon livre et qui a été le point de départ de cette quête, de cette enquête, en fait. La question que l'on peut se poser est de savoir si cette forme de loisir, pourquoi elle a été aussi peu valorisée dans l'histoire. Et l'une des pistes est d'ordre sémantique, et je dirais même elle est assez vertigineuse, car l'une des dernières traces de l'osium dans notre vocabulaire est fiché au cœur même du négoce, qui vient de la réunion des deux termes latins, nec osium, c'est-à-dire la négation de l'osium. Ça signifie donc que le terme qui désigne le marché, le négoce, est formée par la nécessité d'éliminer cette forme de loisir. En effet, si l'histoire nous enseigne que la montée des valeurs du marché, l'utilité matérielle, la rentabilité, la performance, la rapidité, cette montée correspond bien au déclin des valeurs de l'osium, la lenteur, le désintéressement, la quête de sens. Donc tout se passe comme s'il y avait une espèce de jeu de vases communicants. Plus on a de négoce, moins on a d'osium. Mais c'est ce constat sémantique qui forme l'un des postulats du livre. Pour se développer, le marché n'a pas besoin de l'osium. Au contraire, le temps de loisir fécond, il va même jusqu'à le considérer comme un simple temps de cerveau disponible, on connaît le mot très célèbre, qui peut être vendu à des annonceurs. Donc c'est ça que permet le concept d'osium, c'est d'être une sorte de levier qui permet de comprendre que ce qu'on considère comme quelque chose de futile est au fond central pour lutter contre les excès de la marchandisation du monde, au fond, c'est-à-dire le triomphe des valeurs du marché dans tous les domaines de l'existence humaine.
Ce qui est intéressant dans votre ouvrage également, c'est que vous ouvrez des pistes vers des concrétisations, vers des aspects beaucoup plus pratiques de cette notion d'osium.
Les aspects pratiques, je pense, concrètement, dans un monde qui semble de plus en plus absurde aujourd'hui, c'est de nous renvoyer à notre obligation d'être des protagonistes dans l'élaboration du sens, des significations, des valeurs. Chacun a son rôle à jouer, et c'est peut-être ça le message des Grecs, c'est que chaque individu, chaque citoyen à l'époque, était partie prenante de l'élaboration du bien commun. C'est peut-être ça que nous invite aujourd'hui à penser cette sorte de chaos dans lequel nous sommes plongés. Nous avons tous un rôle à jouer dans cette prise de conscience et dans cette élaboration, cette réélaboration des valeurs qui fondent notre existence. Et nous avons tous, dans notre singularité, dans notre créativité, dans notre imaginaire, dans nos rêveries, quelque chose à apporter à cette grande réélaboration du bien commun. Et je dirais que d'un autre point de vue, d'un point de vue pratique, comment nous inciter à aller davantage dans cette direction? Je pense que le désir d'osium, il se gagne très très tôt, au moment de l'enfance, et l'éducation est évidemment un point central, et je trouve que dans notre démocratie, l'éducation nationale peut jouer un rôle important dans le développement d'un esprit d'osium, d'un désir d'osium, et c'est ce que j'ai essayé de développer dans le livre. Un des aspects concrets en termes politiques que l'on peut développer, c'est d'accorder beaucoup plus d'importance à l'éducation artistique et culturelle, parce que l'art, précisément, est une des meilleures nourritures de l'osium, parce que l'art n'est jamais assignable à un intérêt, à une utilité, à une conception, que l'art est justement la meilleure nourriture d'un esprit en train d'essayer d'inventer le sens.
Votre ouvrage, Osium, Art, Éducation, Démocratie, est disponible aux éditions Actes Sud. Merci Jean-Miguel Pire.